Déclaration d'Aigoual. La forêt du massif de l'Aigoual est une forêt dans les nuages, qui par beau temps regarde la mer ou l'océan, et par temps brumeux, ceux qui s'y aventurent. Comme les feux d'artifice du 14 juillet, que l'on voit par dizaines depuis là-haut, les déclarations que vous allez entendre témoignent, comme une fête, des liens différents et pétillants que des hommes, des femmes et des enfants nourrissent pour cette forêt. Aventurons-nous à déclarer la forêt d'Aigoual comme on pourrait le faire d'un nouveau-né, puisqu'elle est très jeune, autour de 120 ans, et qu'elle a été baptisée forêt d'exception il y a peu. Au cœur du parc national des Cévennes qui veille sur elle, nous allons partager avec vous son histoire exemplaire et un état de ses lieux sylvestres. Nous verrons la façon dont elle est appréciée du public, étudiée aussi, notamment par l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, et enfin entretenue. C'est l'Office national des forêts qui s'en charge en grande partie. Nous allons entendre des paroles de contemplation vibrantes, s'incarnant parfois en actes artistiques, comme pour les balcons de l'Aigoual, ce parcours d'art dans le paysage. Seront évoquées aussi des visions d'avenir face aux défis climatiques. Je suis Clémentine Magiera et je vis en lisière admirative de cette forêt. J'ai recueilli à votre intention pour la filature du Mazel, tiers-lieu culturel en vallée de Valerogue, commanditaire de ce projet, les témoignages dont vous allez écouter des extraits. Ces déclarations d'Aigoual se ramifient en plusieurs branches. Déclaration de naissance et d'alliance, déclaration de panacée publique, déclaration au martelloscope, déclaration de revenus des revenants, déclaration de changement de domicile vivant. Et enfin, déclaration d'art et d'amour. Déclarons ensemble la forêt ouverte, ouverte aux expériences, aux connaissances et aux rêveries. La forêt semble n'avoir ni de début ni de fin. À peine quelques clairières qui, de ci, de là, offrent aux êtres vivants comme un ralenti rempli de lumière. La forêt déroule à qui marche en son sein une suite d'arbres, des perspectives d'arbres, des états d'arbres qui semblent toujours avoir été là, eux et leur ombre. À l'intérieur, c'est une famille qui fourmille, champignons, herbes et fleurs, animaux, réels ou féeriques. Cette sensation d'évidence et d'éternité verte est bien trompeuse pour la forêt d'Aigoual, puisqu'elle a été replantée à la fin du 19e siècle suite à une déforestation due au surpâturage. Deux noms lui sont à jamais associés. Le forestier Georges Fabre et le botaniste Charles Flahau. Les premières déclarations que vous allez entendre vont donc évoquer l'histoire de la forêt d'Aigoual et tout ce qui, en elle, fait alliance.
Avant l'arrivée du coton, la seule textile utilisée en France, c'était la laine de brebis. C'est pour ça que tout le contour méditerranéen était très concentré en élevage de brebis, parce que des brebis, c'est capable de valoriser du parcours maigre. C'est pour ça qu'on se retrouvait avec un Aigoual qui était complètement pelé, parce qu'il y avait tous les troupeaux de Méditerranée qui montaient de Béziers, de Montpellier, de Nîmes. Tout ça venait à l'Aigoual passer l'été. Et c'est pour ça que ce massif de l'Aigoual était complètement pelé. À l'arrivée du coton, il y a eu une baisse très significative de l'élevage au vin Et du coup, l'Aigoual s'est retrouvé un petit peu... Il était surpâturé. Il y avait une création d'érosion intense. Et ce monsieur Fabre a décidé de replanter le massif de l'Aigoual en faisant des zones plus ou moins herbacées pour maintenir l'activité pastoralisme. Mais qui était en déclin à l'arrivée du coton pour la fabrication de matières textiles.
Ça m'a beaucoup plu dans l'histoire, la forêt retrouvée de l'Aigoual. Ils replantent des arbres, tous les villageois ont participé, 200 arbres par jour, c'est énorme. À la fin, les 68 millions. Après, ce qui m'a un peu, enfin, ce que j'ai eu envie de leur donner du courage, c'est lorsqu'ils ont replanté l'Or de Dieu. Donc c'est très compliqué à replanter parce que c'est plein vent. Donc après, j'ai beaucoup aimé ce film parce que ça explique comment ils reboisent la forêt. À la fin, quand Charles Flao, on lui rend hommage, j'ai bien aimé la cérémonie. J'aime un peu tout de ce qui s'est passé dans cette histoire.
Ce qui m'a plu, c'est qu'il y avait une personne, elle voulait tout replanter les arbres. Georges Fabre. J'ai retenu qu'il y avait des gens qui ne croyaient pas en lui. Et du coup, au bout d'un moment, les gens ils ont cru en lui. Du coup, ils ont planté tous les arbres. Et c'est pour ça qu'il était dans un endroit dans la forêt, il y a plein d'arbres. Genre, il y a l'arbre du Japon, il y a plein d'arbres.
La montagne, elle, quand il y avait des averses, elle allait dans le sable de l'averse allait dans la Garonne. Et donc, du coup, ils ont dû la reboiser parce que tout le sable allait boucher la Seine, la Garonne.
La forêt était un désert, maintenant elle brille de mille feux.
L'observatoire est très lié à la forêt puisqu'il a été construit par, grâce à un investissement acharné de Georges Fabre, qui était ingénieur général des eaux et forêts à la fin du XIXe siècle, qui a voulu en faire un observatoire de météorologie forestière du type de ceux qui existaient à cette époque-là en Allemagne. Et le but aussi de l'observatoire, c'était de loger des forestiers qui faisaient des relevés météorologiques, mais qui s'occupaient du reboisement, de l'étude de l'évolution de la végétation sur le site. Donc l'observatoire est très lié à la forêt. Mais pour moi, c'est plutôt un observatoire dans les nuages qu'un observatoire dans la forêt. Voilà. Mais ça, c'est mon ressenti en tant que météo, puisque là où j'y ai travaillé en tant que météorologue. Et mon boulot était autour des nuages, pas autour de la forêt, même si la forêt est là. Mais elle est en contrebas, elle est juste en dessous. Elle n'est pas vraiment jusqu'à nous. Donc pour moi, c'est plutôt ça, plutôt un château dans les nuages, observatoire. Mais il est très ancré dans le sol, il est très ancré dans la forêt, puisque c'est un bâtiment qui a été construit en partie aussi pour le reboisement. Donc on ne peut absolument pas le dissocier de la forêt. Pas possible. On va dire qu'il a il a la base dans la forêt et la tête dans les nuages. La forêt, d'une manière générale, a plusieurs répercussions sur le climat. L'une des répercussions qu'on peut voir assez facilement, c'est l'action sur la température, que ce soit en été ou en hiver. D'avoir un tissu végétal assez dense tempère les ardeurs de la chaleur en été. Et en hiver, a tendance à amoindrir aussi les températures basses. On a des températures beaucoup plus basses dans une plaine sans aucun bois que dans une forêt, notamment dans les forêts de conifères. Il y a moins de rayonnement nocturne et la température s'abaisse moins. Donc il y a déjà un impact direct sur la température au niveau de la forêt. Et l'autre conséquence météorologique de la présence d'un tissu végétal important forestier, c'est que les arbres respirent, produisent pas mal d'eau, hein, sous forme de vapeur également, et donc alimentent l'atmosphère en humidité. Ça peut favoriser sur des très grandes étendues l'apparition de feuilles orageuses qui auront tendance à plus facilement se développer là où il y a une source d'humidité. On le voit dans les régions tropicales par exemple. Lorsqu'il pleut, l'eau va être absorbée par l'humus, par la forêt, tout ça. Il y aura toujours une humidité ambiante. Et dès que la chaleur va augmenter le lendemain, et bien cette humidité va partir dans l'atmosphère sous forme de vapeur d'eau et va favoriser l'apparition de nouveaux cumulus qui vont redonner des averses. Donc c'est un cycle perpétuel, plus ou moins, quand les conditions météorologiques le permettent, qui crée un climat un peu plus humide au niveau de la forêt et permettent l'apparition facilitée de nuages quand il n'y a pas trop de vent. Enfin, il faut vraiment des conditions météorologiques particulières. Alors, l'Aigoual, le rôle fondamental de la forêt, hein, et c'est pour ça qu'elle a été replantée d'ailleurs, c'est d'absorber une partie des précipitations lorsqu'il y a des épisodes cévenoles, et puis également de ralentir le ruissellement. Lorsqu'il y a de fortes pentes, la forêt a vraiment un rôle protecteur sur l'écoulement de l'eau, puisque ça évite que tout ce qui est gravier, petits rochers, déboule vers les vallées lorsqu'il y a de fortes précipitations. Voilà un petit peu le rôle météorologique et physiologique de la forêt pour des zones montagneuses.
Le tonnerre, ça fait... Encore un dinosaure.
On faisait l'arboretum de l'Ordre de Dieu. Et la fin de l'arboretum de l'Ordre de Dieu, c'est pour remonter à l'Aigual. C'est sur une petite portion de fin des 4000 marches. C'est un endroit assez magique, parce que tu vas avoir des arbres du Japon et des arbres d'Afrique au milieu des enfin c'est pas les châtaigniers là-haut, mais au niveau des arbres d'ici, parce qu'ils ont testé tous les arbres qui pouvaient tenir le plus facilement, notamment quand ils ont essayé de replanter tout. Et donc on passe à côté d'arbres, on se dit un peu qu'est-ce qu'ils foutent ici. Il y a certains endroits où on a un peu l'impression d'être dans un jardin, un peu comme un jardin japonais, parce qu'on va passer au-dessus d'une mini rivière où dedans il y a des écrevisses. C'est encore un des rares endroits où il y en a. Il va y avoir la cabane. Ouais, c'est ça, la cabane de Flao. Puis il y a quelque chose de... C'est assez en paix, en fait. Il y a moins d'arbres, parce que justement, il y a plus de place. Moi, je me rappelle surtout d'un endroit où il y a cette cabane, où du coup, on a l'impression un peu d'être sur une place centrale, parce que c'est là où il y a sa maison. C'est pas du tout une place de ville, mais c'est une place dans un sens, parce qu'il y a un espace, il y a de l'herbe au sol, mais il y avait cet effet un peu de... Comme s'il y avait la lumière du soleil qui passait au travers des feuilles, qui est arrivé sur cet arbre du Japon, puis à côté, ce petit arbuste d'Afrique. Et il y avait une énergie toute douce, avec le petit ruisseau qui passe. Et c'est assez étrange parce que tout autour, quand on connaît ici, on se balade et on voit les arbres comment ils sont. Et tout d'un coup, on arrive là-dedans où il n'y a pas les mêmes arbres qu'on connaît. On n'a pas l'impression d'être au même endroit. C'est un peu comme si on s'était déplacé, on s'était téléporté dans un autre endroit, dans un jardin même. C'est pour ça qu'il y a un aspect très jardin, comme on peut trouver dans certains jardins japonais en ville, au milieu des parcs. Et en fait, non, c'est au milieu de la forêt. Mais on arrive comme ça, on n'est pas prévenu et on est surpris de ce que c'est.
Nous, ce matin, on a vu la rivière, et dans la rivière, on a vu que les arbres reflétaient sur la rivière, et on a vu des feuilles au fond de l'eau, avec des feuilles en dessus, sur l'eau. Elles nageaient vers la mer.
J'aime bien sentir aussi l'odeur des feuilles. Quand c'est humide, ça sent tellement bon. Mais ça sent un peu comme la mousse. Et en fait, la mousse, c'est plein d'eau. Donc, ça sent bon.
Il y a beaucoup d'arbres, donc des fois, l'automne, ça passe pas partout. Et pareil pour les autres saisons.
Les pins de pin sont en train de tomber. Des espèces de petites écailles qui sont à accrocher. Et parfois, c'est la nourriture aux écureuils. Enfin aussi, il y a encore plein d'autres fruits d'automne. Quand j'ai touché l'écorce, ça m'a fait comme si je touchais la langue de mon chat.
On voit leurs feuilles par terre en automne. Et sinon, quand ils ne les perdent pas tout de suite, ça fait un dégradé de couleurs magnifique. Genre, ça fait orange, rouge, vert, jaune, marron... Franchement, on n'a pas besoin d'aller au Canada pour voir ça. Hein.
C'est une forêt de montagne qui... évidemment, il y a l'histoire du reboisement qui est assez incroyable, en tout cas exemplaire ici, vraiment remarquable. Quoi. Surtout quand on prend les photos, toutes les photos du début du XXe siècle. C'est vraiment saisissant de voir que finalement... En 100 ans, et puis même en moins, le paysage a complètement changé. Quoi. Donc ça, je pense que c'est vraiment une identité de l'Aigual. C'est pas la seule forêt où ça a été le cas. Hein. Globalement, ça s'est fait dans pas mal de forêts de moyenne montagne en France. Et puis après, sur les peuplements, on a des sapins, des hêtres. Donc là, on est dans une forêt typique française montagnarde. Quoi. C'est peut-être ce qui change, mais le contraste qu'on peut avoir quand même entre justement cette cette forêt montagnarde où là on est à la fin du mois d'août et il fait que 10 degrés par exemple. Donc on a vraiment cette ambiance quand même froide toute l'année, enfin ou fraîche en tout cas toute l'année. Et par contre quand on va en bas de la forêt de l'Aigoual, quand on est dans la vallée, dans la vallée de l'Hérault par exemple, et ben on est dans un milieu méditerranéen. On est dans le chêne vert, etc. Quoi. Et donc il y a vraiment quand même ces... Elle est quand même marquée par ces contrastes forts, ça qu'on retrouve vraiment pas partout. Quoi. Et ces contrastes aussi entre le versant quand même atlantique et puis le versant méditerranéen. Quoi. Il y a vraiment un contraste à la fois de relief et puis d'humidité de l'air, enfin, et puis du coup d'ambiance générale. Quoi. Là on est sur quelque chose de... Ici on est sur le côté océanique, c'est quand même plus... On sent qu'il y a plus d'humidité que sur le versant méditerranéen qui est vraiment très 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 sec. Quoi. Donc ça c'est aussi une des caractéristiques de cette forêt. Quoi. Bah avant le reboisement, il y avait en fait... alors les chiffres que je donne souvent, mais pour que ce soit très simple, c'est que en gros, en 1850-1900, il y avait un quart de milieu boisé, trois quarts de milieu ouvert. Et aujourd'hui, on est exactement à la proportion inverse. Trois quarts de milieu boisé, un quart de milieu ouvert. Donc le paysage a complètement changé. N'empêche qu'à l'époque, il y avait encore... alors si on parle juste du massif de l'Aigoual, il y avait encore 2000 hectares qui étaient boisés. C'était essentiellement des hêtres et puis quelques pins sylvestres quand on va vers le côté Causse. Et ces hêtres, en fait, on les voit sur les images sur les images anciennes, sur les photos des années 1900, là. En fait, on voit que sur les versants, il y avait des hêtres qui restaient là, qui étaient certains déjà, qui étaient assez gros. C'était probablement des hêtres qui étaient là, sous lesquels les bergers laissaient les troupeaux se reposer, digérer. Ils faisaient vraiment partie du paysage. Et avec le programme de reboisement, il y a eu des plantations, donc notamment d'épicéas, de sapins, etc. Les taillis de hêtres qui avaient tendance à être surexploités pour le bois de chauffage, pour les bois d'industrie, qui sont revenus petit à petit. Et puis il y a ces gros hêtres qui étaient encore là, et qui ont continué à grandir, à vieillir, et puis qu'on retrouve pour certains encore aujourd'hui. Quoi. Alors il y en a qui commencent à être trop vieux et qui meurent, mais la phase de ce qu'on appelle la phase de sénescence chez les arbres, donc la mort lente en fait des arbres, on va dire, elle s'étale vraiment sur des dizaines d'années. Quoi. Donc il y en a beaucoup de ces gros arbres où des fois il n'y a juste plus qu'une branche où il y a des feuilles vertes, mais n'empêche que l'arbre il est toujours vivant. Enfin, c'est vrai que aussi quand il y a une grosse différence entre les arbres de parc, on va dire, d'un côté, qui ont toute la place qu'ils veulent pour se développer, et puis les arbres en forêt de production où on veut vraiment produire du bois derrière. Et que ce soit pour les feuillus ou pour les résineux, en fait, nous, quand on travaille, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des arbres qui vont être le plus droit possible, qui vont être le moins triangulaire possible, on va dire, enfin vraiment le plus rectiligne possible, et avec le moins de branches possible. Et pour ça, il faut quand même qu'il y ait une densité forte d'arbres, pour que y ait plus de lumière qui arrive aux hauteurs proches du sol, en fait, quoi. Et donc pendant tout un moment de la vie des peuplements, on va faire en sorte que ces peuplements soient assez serrés, assez sombres, pour qu'il y ait ce qu'on appelle l'élagage naturel, que les branches finalement du bas ne reçoivent plus assez de lumière et donc sèchent et tombent naturellement, et qu'il n'y ait plus que des branches enrouées. Donc ça fait des arbres qui ont des formes assez longilignes, quoi, du coup. C'est ça qu'on cherche pour la qualité des bois. Et par contre, à l'inverse, ces gros hêtres là qui avaient toute leur place toute la place qu'ils souhaitaient dans les pâturages, là, eux ils vont avoir des formes complètement différentes. Mais si on prend des conifères, des résineux dans les arboretums ou dans des parcs en ville, on va pouvoir avoir des conifères qui ont beaucoup plus, qui s'étalent aussi beaucoup plus, parce que simplement ils vont avoir la place. Un sapin, si on le met au milieu de rien, il va avoir des branches basses qui vont s'étaler complètement à plat, et il va avoir une forme qui va être complètement différente de celle qu'on a l'habitude de voir en forêt, et qui est vraiment liée à la gestion forestière pour la production de bois, quoi. Il faut imaginer un espèce de réseau de racines, et que pour un arbre, en fait, il y a sans doute un volume de racines qui est aussi grand que son volume de branches. Donc déjà, ça, c'est, on se dit, non, ça ne tient pas dans le sol.
Ouais, c'est ça.
Mais en fait, si, enfin, c'est tellement des racines qui sont super fines, et que ça fait un réseau incroyable dans le sol. C'est dur de se le figurer, quoi. Et pourtant, le sol, c'est quand même une des parties méconnues ou mal connues, je pense, en gestion forestière. Alors on essaye d'y faire plus attention, de développer les connaissances dessus, mais pourtant c'est là-dessus que tout part, quoi. La fertilité, elle part complètement des sols.
La politique du parc national, c'est une des mesures phares, c'est valoriser la forêt tout en confortant son caractère naturel. C'est qu'aujourd'hui, on peut faire de la forêt, et on a de plus en plus de techniques, de recul qui le prouvent, c'est qu'on peut faire de la gestion forestière, faire de la sylviculture, produire du bois, tout en préservant les fonctionnements écologiques de l'écosystème forestier et tout en conservant un écosystème riche. Voilà, c'est ça qu'on essaye de mettre en œuvre. Les Gouales, c'est aussi, on le sait, hein, c'est la ligne de partage des eaux, donc c'est des têtes de bassin versant. Donc avec des enjeux particulièrement importants en termes de ressources en eau, de cours d'eau, de ce qu'on appelle la ripisylve dans le jargon forestier, c'est la forêt de bord de cours d'eau, qui sont des forêts particulièrement intéressantes pour la biodiversité, qui ont un rôle très important pour la protection de l'eau. Donc voilà, tout ça fait aussi que dans ces milieux-là, ce sont des milieux fragiles et il faut y aller doucement, on va dire, en termes de gestion forestière. Voilà, ça fait partie de... On est un peu dans le cœur de nos missions, là, au niveau du parc, et c'est ce sur quoi on travaille.
Il y a la moitié de la forêt, où tu vois un peu le ciel, et il y a l'autre moitié de la forêt, où tu vois pas le ciel.
Sur le massif de l'Aigoual, il y a encore des troupeaux de transhumants. En estive, du coup, grâce à ces troupeaux, il y a encore des pâturages, des prairies, de la pelouse, comme ils disent, en géographie. Et du coup, voilà, on sort de la forêt, on traverse des pâturages, des zones d'herbe, et puis on re-rentre dans la forêt.
Les agriculteurs, les vergers autour, vont chercher à mettre leurs bêtes à l'abri et les faire pâturer sous un couvert forestier. Et donc, c'est effectivement une réserve de terre intéressante pour les agriculteurs et qui par endroit peut tout à fait être envisagée, parce que du coup c'est vrai que en pleine sécheresse, l'herbe reste verte plus longtemps. Alors au printemps, il y a moins d'herbe sous la forêt que dans les prairies, mais à la fin de l'été ou au cœur de l'été, quand l'herbe est jaune ailleurs, elle reste encore, même s'il y en a moins, il en reste un peu sous couvert. Et puis même pour les bêtes, pour leur éviter les stress thermiques dans les périodes de canicule, on a de plus en plus de demandes pour aller faire pâturer des bêtes en forêt, effectivement. Et ça, c'est aussi du coup une pression supplémentaire sur la forêt. Il y a des endroits où ça peut se faire sans aucun problème, c'est pareil, ça dépend de la forêt, mais sur une forêt sur laquelle on cherche à avoir de la régénération, si on va mettre un troupeau de moutons dedans, la régénération, elle va pas y rester longtemps. Donc ça peut aussi par endroits poser problème. S'il y a des cours d'eau, des zones humides, etc., c'est des milieux qui peuvent être sensibles aux impacts du pâturage. Et donc parmi les impacts du changement climatique, voilà, il y a effectivement la pression, on va dire, ce qu'on appelle le sylvopastoral. Mais on en a tout un tas d'autres. C'est qu'on sait que plus il va faire chaud, plus probablement le public va aller se réfugier en forêt aussi. Donc une fréquentation humaine plus importante, avec les risques de dégradation, de pollution qui vont avec. Le risque incendie, on n'en a pas parlé, mais forcément les peuplements vont être plus vulnérables au risque d'incendie. Voilà, on a tout le phénomène de transition énergétique qui est en cours, et à juste titre, hein, tant mieux, parce qu'il faut bien limiter l'ampleur du réchauffement, mais ça entraîne aussi probablement des plus grandes consommations de bois. On parle beaucoup de bois énergie, il y a de plus en plus de gens qui se chauffent au poêle à bois, poêle à granulés, donc c'est aussi des pressions sur la ressource qu'il faut réussir à gérer.
Un arbre qui avait plus de 200 ans et il était géant et il était encore sur pied et il allait vivre encore très longtemps. C'est les racines, c'est ses pieds et aussi sa bouche. Et en fait, ses pieds, c'est sa bouche. En fait, il marche avec ça, avec ses bouches. Ses bouches, elles sont dans la terre. Et donc, c'est très drôle parce qu'après, s'il y a un ver de terre dans la terre, l'arbre, il mange le ver de terre.
C'est comme un poirier. Quand tu fais un poirier, c'est en fait la tête en bas et tes pieds tout en haut.
La forêt, c'est en fait des graines, des toutes petites graines qui poussent, qui mettent 1000 ans à peu près à pousser. Et parfois, quand je rentre dans la forêt, j'ai l'impression que en fait, il y a plein d'animaux qui ont passé par ici, qui ont fait un aller-retour. Par exemple, une biche, un sanglier, un lièvre, un cerf. Et parfois, je me demande qui fait la forêt? Et je n'ai toujours pas de réponse. Tadam!
Bah tout ça, toute cette forêt, ça a été créé. C'est pas le fruit du hasard. C'est tellement beau, c'est tellement parfait que ça peut pas être fait par personne. C'est tellement précis que ça peut pas être fait par personne. Bah moi, quand je vois la forêt, je pense à Dieu. Je pense au Créateur. Quand tu regardes les arbres là qui sont devant toi, on sait ce que c'est. On sait que c'est des châtaigniers, on les connaît. Mais si tu observes bien un châtaignier, en plus je peux en parler parce que mon mari il est apiculteur, un châtaignier et son voisin ne seront pas exactement les mêmes. Et sur un seul arbre, tu vas prendre une feuille de châtaignier, la forme est à peu près la même. D'accord. Mais si tu regardes bien, tu verras quand même qu'il y a une sensible différence. Et si tu vas encore plus proche sur la feuille, tu vas voir les nervures. Tu vas te dire à peu près, bon, c'est tout à peu près pareil. Mais si tu regardes bien, comme sur notre main finalement, eh bien les nervures d'une feuille de châtaignier vont pas être les mêmes sur une autre feuille. Pas exactement les mêmes. Pour moi, ça montre une chose que l'homme ne peut pas faire d'ailleurs. C'est que c'est parfaitement précis. Mon rapport à la forêt, c'est de voir à quel point, bien sûr, Dieu est artiste, mais aussi scientifique quelque part, dans le sens où il maîtrise les choses. Et quand j'observe en fait la création, eh bien, je vois qu'il y a une intelligence. Tu vois qu'il y a quelque chose qui est vraiment réfléchi, pensé, et que c'est vraiment dans la précision, dans la minutie, au millimètre près. Et ça, moi, ça m'épate. Un arbre, pour qu'il tienne bien, il faut qu'il y ait des racines très profondes. Et s'il y a des racines très profondes, il peut grandir très haut et produire du fruit. Et en fait, la vie de foi, c'est ça. La vie de foi, c'est vraiment Dieu, il enracine les choses en nous, au plus profond, notre foi au plus profond. Et puis, c'est ça qui fait que l'arbre, qui est Christ, parce que moi je crois en Jésus-Christ, peut grandir en nous et porter du fruit. Et c'est aussi ça que me rappelle un arbre. C'est un arbre, si il n'est pas bien enraciné, s'il n'est pas sur un bon sol, il ne va pas tenir, il ne va pas rester, il ne va pas être solide. On peut penser que c'est solide comme ça, mais il suffit d'un coup de vent et il y a tout qui est rasé. Il n'y a plus rien qui existe. Finalement, ce qui est le plus important dans un arbre, c'est les racines. Et moi, mes racines, elles ne sont pas dans une terre physique, elles sont dans le monde spirituel.
D'ailleurs, dans beaucoup de mythologies, y compris la mythologie indienne, en fait, il figure les arbres à l'envers. C'est-à-dire que, justement, les racines sont dans le ciel et vraiment, les branchages, ça touche terre, quoi.
Ouais.
Et donc, c'est inversé.
Ouais, c'est juste. Du coup, voilà, c'est pour ça que je suis dans les Cévennes.
Ben, j'aime bien sentir l'air. Écoutez ben, les bruits de la forêt. Ça gigote beaucoup et les arbres, les feuilles, les branches.
Sans arbres, on ne pourrait pas respirer. Et nous, vu qu'on est entouré de forêts, on a souvent de l'air tellement qu'il pénètre fort. Des fois, il y a eu beaucoup d'écoulements. Tellement qu'il pénètre fort, et ben, des fois, il détruit les maisons. Il y a des chalets à l'Espérou. On a eu 4 ou 5 chalets. Qui se sont fait renverser, bon, et aussi ils étaient très jeunes, on venait juste de les finir. Ils se sont fait renverser par le vent, et du coup, on est obligé de reconstruire. C'est pour ça que là, en ce moment, les chalets, on les fait l'été, vu qu'il n'y a pas beaucoup de vent, et voilà.
La forêt est juste en contrebas, aussi bien vers son nord que vers son sud. Alors, même si la forêt pousse au sommet, les arbres seront rabougris, hein. Ils n'auront pas la taille optimale parce que, surtout entre par exemple l'ouest et l'est du sommet de l'Aigoual, il y a une différence de vitesse de vent. À mon avis, le vent a un rôle important sur l'absence de forêt là-haut, c'est-à-dire qu'elle a quand même du mal à pousser, à se stabiliser à haute altitude. À mon avis, ce n'est pas un problème de température, on n'a jamais eu de température très froide là-haut. Par contre, on a beaucoup de givre, hein. On peut avoir des épaisseurs de givre de plus de 2 mètres, ce qui est énorme. Hein. Sur les arbres, donc il faut qu'ils soient solides aussi. Donc il y en a beaucoup, peut-être qu'ils s'ils essaient de pousser, ils se retrouvent avec soit du vent trop fort, soit du givre très important, et donc ils vont atteindre une toute petite taille comme des buissons qui n'arrivent pas à pousser du fait du vent. Le givre et le vent, je pense que c'est les deux paramètres qui sont problématiques pour la forêt là-haut. Mais bon, peut-être que ça poussera. Hein. De toute façon, c'est pareil. Hein. Par exemple, on a nettement moins de tempêtes de sud. Des rafales à plus de 200 km/h. Jusqu'au début des années 90, même début des années 2000, on avait à peu près une pointe par an à plus de 200. Et là, maintenant, c'est tous les 6, 7 ans, 8 ans. Donc le vent, les rafales les plus fortes qu'on pouvait observer à l'Aigoual ont tendance à s'amoindrir, sont moins violentes. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de vent, hein. Mais il semble que les tempêtes virulentes soient moins fréquentes. Ce qui n'est pas illogique avec l'évolution météorologique et climatique du lieu.
Le vent, des fois, ça peut te montrer le chemin. Des fois, si tu t'es perdu et que sur ta carte, il n'y a plus rien, le vent, des fois, il souffle dans la direction que tu dois aller. Parce que si tu t'es perdu dans la carte, ben, le vent, des fois, il te montre la direction.
Oui, c'est une forêt dense, ça c'est vrai. Quand on sort un peu des chemins, hein, des chemins balisés, on peut en témoigner parce que, bon, quand on cherche les champignons, on monte, on descend, on monte, on descend. On se perd un peu, des fois. Ça m'est arrivé, bon, enfin, de me perdre. De me retrouver sur un chemin où je me disais, mince, c'est pas celui-là que, sur lequel je voulais me retrouver. Mais bon, voilà, c'est aussi le charme des forêts en général, mais peut-être de celle-là en particulier. Mais on se retrouve toujours. Même si je me rallonge, ça m'est encore arrivé hier. Voilà, je me suis un peu rallongé parce que on a le sentiment qu'on va revenir sur le chemin d'où on est parti. Et puis finalement, non, on se retrouve sur un autre. Donc, parce qu'on a été un peu plus loin que prévu, on se redirige à peu près dans la bonne direction. Même si une fois, par contre, là, ça m'est... Alors, on ne s'est pas complètement perdu. Et on était venu, ben, tiens, pas loin d'ici, là, du côté de Cap de Côte. Et on cherchait des champignons et j'ai l'habitude de siffler, moi, tu vois, voilà, c'est une habitude que j'ai. Et à un moment donné, on est revenu et j'ai pas pris la bonne épingle, quoi. J'ai pris une épingle en dessous de celle que je devais prendre, on était à pied. Et au bout d'un moment, ma fille m'a dit « Papa, pourquoi tu siffles plus ?» Papa, je tâtonnais un peu, quoi. Voilà, bon. Mais voilà, c'est pas désagréable non plus, hein, de finalement marcher et puis se retrouver dans des endroits qu'on n'a pas forcément prévus et sur lesquels, bon, finalement, on redécouvre des choses un petit peu différentes et nouvelles.
On est allé ramasser des champignons dans la forêt. Il en trouve carrément plein. Ils font un petit panier, mais t'es carrément plein. Parce qu'il est fort. Et quand on va loin, eh ben, on en trouve. On a vu des champignons. Ils étaient sur les arbres. Ils poussaient. Ils poussent là parce que c'est là leur place où ils poussent. Parce qu'il y a des champignons qui poussent sur plein de terrains différents.
Les trompettes de la mort aussi, il y a la manigéreuse, il y a le coprin chevelu. On l'appelle le coprin chevelu parce qu'en dessous ça fait comme des cheveux. Le pied de mouton, on l'appelle le pied de mouton parce que dessous ça fait comme des genres de pieds. Et le cèpe, on l'appelle le cèpe parce qu'en fait en dessous c'est un peu mousseux ou c'est un peu vert ou c'est juste mousseux mais tout blanc. Et on reconnaît le cèpe pour pas se confondre avec le faux cèpe, parce que le cèpe est différent. En dessous du faux cèpe, on va trouver des ailettes. Alors qu'en dessous du vrai faux cèpe, le bon, on va trouver soit de la mousse ou soit vraiment de la mousse toute blanche. Aussi, il y a la tête de nègre, il y a le bolet bronzé qui est aussi la tête de nègre, mais en fait, ça s'appelle le vrai nom, c'est bolet bronzé. Attendez, la girole aussi, il y a, qui est comestible. Bon, je m'en souviens pas tous, j'amènerai ma boîte à champignons plus tard.
Et les brebis, j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'elles mangeaient les champignons.
Bon, il y a une bonne sortie, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de variétés de champignons sur le massif de l'Aigoual. Mais bon, maintenant, les bonnes sorties sont un peu plus erratiques avec le changement climatique qui fait quand même plus sec, les conditions sont moins favorables, on va dire. Donc oui, on ramassait des cèpes, quelquefois il y avait des poussées de cèpes pas possibles. Il y a eu une année, ça avait tellement poussé. Et c'était fin octobre, je crois, il y a eu beaucoup de pluie. Et les cèpes avaient été arrachés par les petits torrents temporaires, transportés avec des cailloux. Et tu avais des barrages de cèpes et de cailloux. J'ai vu ça une seule fois dans ma vie, quoi. Voilà, c'est des moussards. Mais en tout cas, tu avais des moussards au milieu des cailloux qui avaient été arrachés par les petits torrents. Un truc improbable. Mais il y en avait partout, quoi. Ils poussaient presque sur les arbres. C'était n'importe quoi. Donc là, il y avait vraiment plein de cèpes. Mais ces derniers temps, j'ai pas revu ça. Hein. Il y en a un peu moins, j'ai l'impression. Après, oui, bah, il y a beaucoup de pieds de mouton aussi. Puis des girolles, on trouve un peu de tout. Hein. Mmh. Après, ce qui est magnifique, c'est quand tu as des amanites, tu mouches, des belles grosses amanites, tu mouches, puis que tu as tes 3-4 cèpes à côté, ça fait un petit peu le royaume des schtroumpfs. C'est rigolo.
Il faut pas trop abuser de la nature. C'est-à-dire qu'il ne faut pas abuser du bois, il ne faut pas arracher les champignons quand on en ramasse. Il faut en garder quelques-uns quand même. C'est sûr, quand on en voit un, c'est sûr, on a envie de tous les ramasser. Mais après, quand c'est pas des cèpes et que c'est des champignons pas comestibles, il n'y a pas besoin de les retourner et tout ça, et de les arracher. Moi, je dis qu'il faut les laisser en place. Et parfois même, il y en a certains qui ne veulent même pas montrer leur coin parce que c'est leur coin à eux. Ils pensent que c'est leur coin à eux. Mais non, c'est à tout le monde. C'est pas à tout le monde, c'est surtout à la nature. Faut pas prendre tout ce qu'il y a sur notre chemin. Par exemple, là, t'as des milliers de cèpes, t'en ramasses quelques-uns et après tu pars. Y'a pas besoin d'en ramasser 50 000 non plus. Et après, certains sont vraiment égoïstes et ne veulent même pas montrer leur coin, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais ça va plus loin que ça. Ça va jusqu'à... par exemple, y en a qui s'en donnent mutuellement. Et ça va jusqu'à ne même pas en donner et même pas en cuisiner pour les autres.
Mais des fois, ça va même encore plus haut. L'année dernière, il y a eu même des bagarres. On était aux champignons, à côté de nous, ça commençait à crier. Ça se criait dessus. Donc les champignonneurs, nous, on n'a rien demandé. C'est eux qui viennent nous embêter avec leurs champignons.
Moi, je vois, elle s'ouvre la forêt. Elle doit s'étaler la nuit parce que tu as des bruits. Tu dois avoir des bruits des animaux qui vont se nourrir, des belettes. Parce que sous la terre, c'est pareil. Sous la terre, c'est une galerie. Et c'est tous ces animaux qui sont de sous terre. C'est vivant.
Il y a certains animaux et des arbres qui travaillent ensemble. Les oiseaux prennent des glands et tout ça pour les manger plus tard. Ils les enterrent et en fait, ils font pousser un jeune arbre.
Les arbres, j'aurais dit que ils sont à peu près pareils que nous puisqu'ils grandissent, ils mangent, ils boivent et ils ont une raison d'être. Ou ils ont aussi une âme et un cœur. Un cœur d'arbre, c'est l'arbre. Si il meurt quand on coupe un arbre, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a des ronds, donc c'est son sang. Donc s'il y a un sang, il y a un cœur. Et l'arbre a un cœur parce qu'il veut abriter les oiseaux. Donc déjà, il protège les animaux. Donc pour ça, il faut avoir un cœur pour vouloir protéger les autres.
Je sais pas comment il s'appelle, mais il fait des glands. Et celui-là, je l'aime parce qu'il fait à manger pour les écureuils. Ils avancent très vite et ils ont une queue qui part un petit peu en vrille. Le bois de serre, il a des espèces de branches comme un arbre. Il y a comme des branches et qui partent sur le côté comme un arbre un petit peu.
On est dans la forêt du Miquel et c'est en fait le vrai nom, c'est le col de l'Espérou. Mais nous, ici, on connaît ça sous le nom du tapis vert. Il y a ce qu'on appelle l'herbe à sanglier, c'est une herbe très verte ou l'herbe à sieste. Je pense que c'est parce que ça ressemble aux crins de sanglier, mais vert. Après, on dit que les sangliers aussi, moi j'ai toujours entendu dire que les sangliers, ils aimaient bien se rouler dedans. Mais moi, je pense que c'est plus en rapport avec la matière de l'herbe qui ressemble aux crins.
Quand on se promène, eh ben, on voit que la terre elle est retournée et du coup on se dit « Ah, il y a un sanglier qui est passé par là. »
Et d'un coup on entend « Et là on voit plein de trucs passer et on a dit « Oh, des sangliers !» Alors c'est tout marron, ça a des dents, des grandes dents qui montent jusqu'à la truffe, même plus, et c'est très pointu. C'est un peu comme des défenses.
Alors, mon animal préféré aussi qu'il y a dans la forêt, c'est le loup. Mais parce que je trouve que c'est stylé, que c'est dans beaucoup de bandes dessinées. J'adore, hein. C'est stylé, ça court vite. À part dans les zoos, mais ça attaque pas forcément. Et des fois, ça a peur.
Et aussi, ça a peur des humains. Mais des fois, pas trop.
Ben, je suis contente parce que, enfin, une fois j'ai vu un loup,
mais juste la queue parce qu'il est passé très vite. Mais je suis pas sûre que c'était un loup, mais je pense quand même.
Je sais qu'il y aurait au moins une meute en cours d'installation sur les gouales, mais on sait qu'ils s'en voient de plus en plus, qu'il y a aussi des attaques régulièrement, et que c'est un sujet extrêmement sensible, surtout pour le monde agricole. Enfin voilà, quels sont les impacts du loup ? Il y en a des positifs, il y en a des négatifs, donc bon, je vais pas revenir sur les négatifs, parce que le monde agricole en parlera mieux que moi, mais c'est vrai qu'on sait que ça va changer les choses. Je parlais tout à l'heure d'équilibre sylvocynergétique. L'année dernière, les chasseurs me disaient qu'ils voyaient moins de bêtes que d'habitude, moins d'animaux. De cervidés. Et c'était un peu la question. Est-ce que c'est pas le loup qui engendre des modifications de comportement des populations en engendrant un climat de peur, en les rendant plus craintives, etc. Donc ça fait des animaux qui sont plus difficiles à chasser pour les chasseurs. Ça nous aide pas en termes de réalisation des plans de chasse. Mais bon, cela dit, si les animaux passent plus de temps à courir qu'à manger et à se reproduire, ça peut aussi aller dans le sens de la diminution des dégâts en forêt. Voilà, on observe, on suit la situation avec intérêt, sans prendre position derrière, mais de toute façon, voilà, c'est une situation un peu qu'on subit et à laquelle il faut s'adapter.
Bon, le loup arrive. Bon, avant qu'il régule, il va falloir du temps. Bon, alors évidemment, les loups, ils empiètent sur le terrain des chasseurs. Alors les pauvres bêtes, bon, elles se font flinguer, hein, les quelques-uns qu'il y a. Vous baladez, le commun des mortels va vous dire localement « Oh, mais j'ai vu un loup par-ci, par-là ». Nous, forestiers, on passe notre vie en forêt, on n'en voit pas. Il y en a un qui a été vu, et alors là, avéré, quand vous montez de Trèves, vers ce qu'on appelle le col des Rhodes, à la Bastide. Là, il y en a un qui a été vu, qui a été filmé. Le loup, bien entendu, je parle au nom de mes collègues, on est pour. Il a tout à fait sa place. On n'est pas encore aux meutes qu'il pouvait y avoir au Moyen-Âge jusqu'au début du 19e siècle. Ah oui, mais ça, le loup nous attaque. Ne comparons pas le petit chaperon rouge avec... Non, mais c'est ce qu'il faut comprendre, mais les gens ne font pas le distinguo. Il y a eu toutes ces histoires d'ogres, mais c'était pour faire peur aux enfants, pour qu'ils ne s'éloignent pas.
Déjà, on ne dit pas le loup, on dit les loups. J'y tiens, parce que ce n'est pas un loup qui nous embête, c'est les ensembles. Les attaques font peur, oui. Elles sont déroutantes pour les brebis, elles sont déroutantes pour l'éleveur, qui est un peu démuni. Quoi faire? Comment faire? Il y a le préjudice direct de l'animal en question, et tous les préjudices indirects, non quantifiables, mais beaucoup plus quantifiables quand même sur des troupeaux laitiers, vu que, bon, en viande, on va dire, ça va être la perte de gains, parce que la brebis passe plus de temps à surveiller les attaques, ou les avortements, ou les pertes liées à l'accident, liées à la panique. En brebis laitière, on va rajouter à ça un stress important qui est lié à la lactation. Donc du coup, deux attaques de loup, on va dire, ou trois, et on va dire que le troupeau est tari.
Est-ce qu'il y a des solutions ?
Tout fonctionne, à un certain temps, jusqu'à ce que les animaux en question trouvent la parade. Je veux dire, si on met quelqu'un, forcément, à un moment donné, on va passer dans un bartas, il attend derrière le bartas, et puis il chope une brebis.
Les patous, c'est...
Alors ça fonctionne un moment. Mais c'est une escalade, vu que il faut être mieux équipé que son voisin. Si moi j'ai un patou que mon voisin n'a pas, pour l'instant c'est moi qui vais être gagnant. Parce que les loups sont feignants, donc ils vont aller au plus facile. Celui qui n'en a pas, c'est facile. Si demain le voisin met deux patous, moi j'en ai qu'un, c'est moi qui vais passer en garde-manger. Donc tout fonctionne, mais il faut se renouveler tout le temps. Donc ça rajoute un travail supplémentaire à l'éleveur. On sait que l'humain trimballe des traumatismes de ses ancêtres. Les loups, c'est exactement pareil. Ils n'ont plus de traumatismes liés à l'humain. On le sait. Génétiquement parlant, si on fait peur à un animal, ça se reproduit sur la génération d'après. Donc il faut lui réapprendre à avoir peur de l'homme. Bon, c'est ce qu'on fait plus ou moins. par l'effarouchement ou du tir, plus ou moins létal. Il n'y a que ça qu'ils comprennent vraiment la peur, quoi. On est le 5 juin, il y a deux jours, il y a eu la nuit jaune, une attaque. J'accepte les situations, moi, que je ne peux pas contrôler, mais je suis inquiet, oui, je suis un petit peu inquiet, parce qu'effectivement, le seul endroit où elles sont à peu près en sécurité, c'est en bergerie. Ça veut dire industrialiser l'agriculture. Alors que justement, ici, avec le paysage, la gestion du paysage, et l'image qu'on veut avoir des causes Cévennes, c'est plutôt l'élevage extensif qui est promu. Et en plus, en termes de qualité gustative des produits, donc qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut bien manger ou est-ce qu'on veut un ensauvagement du territoire ? Il faut protéger aussi l'éleveur qui risque à terme d'être, lui, une espèce en voie de disparition. En tout cas, l'élevage extensif.
Est-ce que tu penses qu'il y a des êtres surnaturels dans la forêt ?
Ah oui, ça se peut. Parce que la forêt, elle a beau être beau, mais on voit pas... C'est comme le cœur, il est beau, mais on peut pas le voir. Alors que les animaux extraordinaires, ils pourraient peut-être essayer d'ouvrir un peu la forêt pour qu'on voie un peu les animaux. Je les vois grands, très rapides, parce qu'il faut pas qu'on les voie, avec des ailes pour voler, très lourds, pour pas qu'on les emporte. Ils pourraient être, avoir des oreilles, mais là, collées. Avoir aussi des yeux, des gros yeux, pour mieux nous voir.
Moi, je pense que dans la forêt de l'Aigoual, il y a des nymphes, parce que c'est la plus belle forêt. Comme les nymphes, elles sont très jolies, pour moi, il y a des nymphes dans la forêt de l'Aigoual. Elles font pousser les arbres, et en fait, suivant quels arbres elles font pousser, ça donne à manger aux oiseaux, aux écureuils, aux renards, aux loups. Elles enfoncent leurs pieds dans la terre. Et après, quand elle l'enlève, ça fait une trace de pied. Et dans cette trace de pied, il y a 5 graines. Et ces 5 graines, elles vont pousser 5 arbres différents.
Ça brille parce qu'il y a les ailes qui ont de la poudre. Et la poudre, elle est dorée. On n'en a jamais connu parce qu'elles sont tellement petites qu'on ne peut pas les voir.
Ben, je sais bien mes endroits. Voilà. Et je sais bien où je vais. Et voilà. Mais après, il peut y avoir de la magie et tout, hein, dans les arbres.
Je connais des forêts qui s'appellent les forêts des lutins trolls. Vers Merway, c'est vers l'Aigoual.
Une fois, j'ai vu un arbre qui m'a dit bonjour. Je me suis dit, mais c'est quoi cet arbre ? Je me suis dit, c'est quoi cet arbre ? Je lui ai répondu bonjour et il m'a serré la main. Il m'a serré la main et il m'a tout avoué sur toute cette histoire. Je crois que c'était un être. Un être. Je crois bien. Après, il m'a dit au revoir et reviens quand tu veux. Et je suis revenue tous les jours et je lui ai demandé si je pouvais faire ma cabane à l'intérieur. Et il a dit oui. Il a dit avec plaisir, même je t'aiderai. Par contre, essaye de pas trop me casser les branches parce que ça fait mal. Mais fais ta cabane si tu veux.
Toute création, tout arbre communique. Tout. Si je rentre, je vais en avoir un moment.
Vous venez d'écouter les premières déclarations d'Aigoual. Déclarations de naissance et d'alliance. Merci aux enfants des écoles publiques de Trèves, Cambrieux, Lannuéjol et à leurs enseignantes. Merci à Vincent Cosse, paysan fromager, à Éric Dio, ancien météorologue et artiste peintre, à Lila Maréchal-Schneider, étudiante, habitante de l'Aigoual, à Valère Marsaudon, ingénieur forestier à l'ONF et photographe naturaliste. Merci à Baptiste Algoette, responsable du pôle forêt-chasse au Parc national des Cévennes, à Rebecca Clémenceau, accueillante au gîte de Cap de Côte, à Oriane Hervé, art thérapeute et pasteur. Merci à Céline Pialo, artiste, à Jean-Marie Angelini, retraité viganais, à Maryse Roux, retraitée, résidence des Ormeaux de la Nuéjol, et à Bernard Piercot, technicien forestier à l'ONF. Ces déclarations d'Égual, glanées d'octobre 2023 à juin 2025, sont une commande de la filature du MASEL, pôle d'innovation territoriale, soutenue par la DRAC Occitanie, le département du Gard, la communauté de communes Cosse-Égual-Cévennes-Terre solidaire et la fondation Carasso. En partenariat avec le studio Raw Power Records et Radio Larzac. Une création de Clémentine Magéra, conteuse et autrice illustratrice, avec le concours aérien des oiseaux de l'Égual. Pic noir, chouette de Tegmalm, chouette chevêche, mésange noir, citelle, troglodyte mignon, grimpereau des bois, pinson des arbres, roitelet huppé, rouge-gorge, qui illumine ce bosquet de podcasts.